poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM et DAB+, comme toutes nos émissions, mais aussi sur notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Nous commencerons aujourd'hui par une invitation de la Fédération protestante de France. Nous poursuivrons avec les témoignages des différents cultes de France face à la fin de vie. Puis nous reparlerons du programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël en cette période si difficile avec le témoignage d'une accompagnatrice irlandaise. Et nous terminerons avec quelques informations locales. Fédération protestante de France. Nous traversons une période troublée par le spectre d'une violence et la résurgence de haine que nous croyons relever d'un passé révolu. De nombreuses femmes, hommes et enfants requièrent une indéfectible solidarité, notamment avec les plus vulnérables, celles et ceux dont l'existence même est menacée par les conflits. Notre engagement en faveur des personnes ravagées par les conséquences des conflits doit demeurer une priorité qui guide notre action. Le souffle de cet esprit de solidarité inspire également l'organisation du Dîner des protestants le 27 novembre prochain sous le thème « Les femmes qui osent ». Ce sera l'occasion de célébrer la force, le courage et la résilience de celles qui, bien que souvent invisibilisées, bravent l'adversité pour agir. À l'écoute des défis qu'elles rencontrent, nous collecterons des fonds dédiés à encourager les associations protestantes engagées dans l'accompagnement des femmes, offrant aux plus vulnérables un soutien indispensable. Nous vous invitons chaleureusement à vous inscrire à ce dîner et à contribuer ainsi activement au soutien de ces femmes courageuses. Ce communiqué est signé du pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France. La troisième édition du Dîner des protestants aura lieu le lundi 27 novembre au Palais de la Femme à Paris. L'exposition « Femmes d'espérance, femmes d'exception » qui présente les portraits d'héroïnes de la foi qui ont lutté contre les injustices arborera les murs des différentes salles. Témoignages des différents cultes de France face à la fin de vie. La question de la fin de vie ne laisse personne indifférent. En découle notamment l'attention portée au sort de nos aînés et la réflexion sur le rapport de chacun à la mort. Une course marathon a été organisée par le président de la République. Une convention citoyenne a été constituée, des rapports rendus, les médias s'en sont emparés, des tribunes ont été publiées et enfin, les discussions parlementaires doivent débuter. La fin de l'année 2023 et le début 2024, marqués du sceau du débat, pourraient donc voir la législation française évoluer et le recours au suicide assisté, par exemple, entrer en vigueur. Dans ce vaste processus, les religions n'ont apparemment pas leur place laissée en dehors du débat. Pourtant, elles ont été construites précisément autour du sens donné à la vie et à la mort. S'interroger aujourd'hui sur l'accompagnement face à la désespérance, la maladie, la souffrance et la mort ne peut être fait qu'en redécouvrant les enseignements transmis au fil des siècles par les différentes confessions. Après avoir dirigé l'année dernière les spiritualités en temps de pandémie, avec notamment la participation de François Claveroli, alors président de la Fédération protestante de France, l'anthropologue Laetitia Atlani-Duo poursuit le dialogue entre une quinzaine de grandes voix religieuses de France. Chacun dans leur tradition théologique, les participants abordent sans détour la fin de vie, non pour en défendre le caractère supposément intouchable, mais pour permettre au lecteur de prendre part, muni de cette lecture religieuse multiple et accessible, aux débats qui vont marquer l'actualité. Parmi les participants, Christian Krieger, pasteur et président de la Fédération protestante de France, Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims et président de la Conférence des évêques de France, Dimitrios Ploumis, métropolite de France, Haïm Korsia, grand rabbin de France, Shems Eddin Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, Anthony Boussemar, co-président de l'Union bouddhiste de France, Véronique Margrand, théologienne, sœur dominicaine et présidente de la COREF. Conseil œcuménique des Églises, programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël. La population veut vivre sans crainte et sans harcèlement permanent. Maire Ní Maybrick est originaire de Galway en Irlande. Du lundi 31 août au 7 octobre dernier, elle était accompagnatrice œcuménique à Tubas, un village de Cisjordanie. Elle avait déjà été accompagnatrice œcuménique en 2019 à Hébron. Le programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et en Israël a été créé par le Conseil œcuménique des Églises à la demande des responsables des églises locales qui réclamaient la mise en place d'une présence internationale dans leur pays. Ce programme accompagne les populations et les communautés locales en assurant une présence protectrice et en témoignant de leur lutte et espérance quotidienne. Maire Ní Maybrick revient ci-dessous sur ce qu'elle a observé sur le terrain. Pouvez-vous nous donner un aperçu de ce que vous avez observé dans la vie quotidienne des personnes que vous avez accompagnées à Tubas et dans d'autres villages ? Ní Maybrick. Cela fait plusieurs années que les accompagnateurs œcuméniques assurent une présence protectrice dans la plupart des villages de Massafer Yatta, dans les collines du sud d'Hébron, et notamment dans 8 villages situés dans ce qu'Israël appelle la zone de tir 918. En mai 2022, les tribunaux israéliens ont confirmé que plus d'un millier de personnes vivant dans ces 8 villages pourraient être expulsées des maisons et des terres où elles vivent depuis des générations. C'est dans cette zone que j'ai commencé ma mission d'accompagnatrice œcuménique au début du mois de septembre 2023. J'étais déjà parti en mission pour le programme d'accompagnement œcuménique en 2019, mais à Hébron. À l'époque, j'avais passé un peu de temps à Massafer Yatta. Lorsque j'y suis retourné au début du mois de septembre, j'ai constaté une détérioration révoltante des conditions de vie des familles palestiniennes dans ce secteur, et ce, en raison de la prolifération des colonies israéliennes et des militaires qui les soutiennent. Ces hommes et ces femmes habitent dans des colonies illégales et dans des avant-postes qui occupent plusieurs sommets dominant les villages et les terres palestiniennes. Pendant les 5 semaines que j'ai passées là-bas, j'ai vu un nouvel avant-poste s'installer sur une colline près du village de Tubas, à l'intérieur de la zone de tir. La population palestinienne est chassée de chez elle, de ses terres, tandis que le nombre de colons israéliens qui s'installent dans le secteur ne cesse d'augmenter. Les villageois et les villageoises avaient demandé le soutien des accompagnateurs œcuméniques en raison de la multiplication des actes de harcèlement et de violence commis par les colons et l'armée israélienne. La violence des colons israéliens, soutenus par les forces de défense israéliennes, prend de nombreuses formes différentes. Nous avons vu des bergers qui faisaient paître leurs troupeaux se faire harceler pour les obliger à quitter leurs terres. nous avons vu les conséquences des attaques menées contre les maisons et les abris pour animaux de certaines familles du village. Des vols d'olives ont été signalés juste avant le début de la récolte et le 12 octobre, des oliviers ont également été détruits au village d'At-Tuwani. Nous avons vu des enfants se rendant à l'école se faire harceler parce que leur chemin passait à côté de colonies israéliennes illégales. Comme les colons israéliens, hommes et femmes, s'approprient de plus en plus de terres avec le soutien de l'armée, les pâturages à la disposition des familles palestiniennes ne cessent de diminuer, ce qui les oblige à réduire la taille de leurs troupeaux et à dépenser de plus en plus d'argent pour acheter du foin et du grain pour leurs animaux. Cela détruit leurs moyens de subsistance. Voici ce que nous disaient les villageois et les villageoises le 4 octobre. L'étau se resserre autour de nous. On nous rend la vie impossible pour que nous n'ayons d'autre choix que de partir. Cela leur permettra de dire que nous sommes partis volontairement. La cage se referme. Que vous disent à présent vos contacts à Massafer Yatta? Réponse de Nîmes Maybrick. Depuis le 7 octobre, toutes les routes menant à leur village sont bloquées par l'armée israélienne. Par conséquent, non seulement les gens ont peur de sortir de chez eux, mais il n'est plus possible de sortir des villages pour aller chercher de la nourriture ou des médicaments. Il est trop risqué d'envoyer les enfants à l'école. Sans compter que les instituteurs et institutrices qui ne vivent pas dans ce secteur ne peuvent plus se rendre dans leurs écoles. Même avant que la situation s'aggrave, les enseignants étaient souvent retardés par l'armée. Leurs voitures ont été confisquées à de nombreuses reprises. Ils et elles se retrouvaient ainsi parfois dans des zones isolées, avec des enfants sans autre solution que de faire de longs trajets, à pied en pleine chaleur, pour rejoindre un village ou trouver de l'aide. Toutes les écoles situées dans la zone de tir 918 font l'objet d'un ordre de démolition, de sorte que les enseignants et les enfants ne savaient jamais si leur école n'allait pas être démolie du jour au lendemain par l'armée israélienne. Depuis les événements survenus le 7 octobre au petit matin, nous avons dû quitter la zone. J'ai reçu des messages de plusieurs personnes que nous connaissons là-bas. Toutes racontent que des groupes de colons armés circulent dans les villages à différents moments de la journée et les obligent à rester chez elles en menaçant de tuer quiconque leur désobéit. Voici des extraits des messages que j'ai reçus. Dans le village de Soussia, le 9 octobre, avec l'aide de l'armée israélienne, les colons ont passé un champ agricole au bulldozer et y ont déversé plusieurs tonnes de terre et d'eau. C'est une politique très efficace en temps de guerre. Il n'y a pas de loi ici. Depuis le début de la guerre, deux familles ont été contraintes de quitter la zone à cause de la violence des colons. C'est l'enfer ici. Dans les collines du sud d'Hébron, les activistes des colonies se substituent à la loi. À Soussia, le 9 octobre. Ils ont endommagé notre système d'alimentation en eau, fermé les routes et dévasté notre ferme de Soussia. Ils saccagent tout, mon ami. À Oum al-Kahir, le 15 octobre, un colon armé a prévenu tout le village que si nous sortons de chez nous, il nous tuera. À Tubas, ma famille et moi sommes toujours là, mais la situation est vraiment effrayante et va de plus en plus mal. Les colons sont toujours là avec des armes. Ils sont arrivés au village avec des armes il y a 3 jours, le 12 octobre, et aujourd'hui, le 16 octobre, ils sont revenus avec des armes à 6h du matin. À l'heure actuelle, les colons sont des militaires et font des tournées très provocatrices ici. Tout le village est en danger. La veille, le 15 octobre, nous ne pouvons rien faire. En ce moment, il y a un buggy avec 3 colons armés dans le village. Ils ont lancé un drone et filment tout le village. Nous ne pouvons plus rien filmer car dès qu'ils aperçoivent quelqu'un, ils pointent une arme sur lui. Que ressentez-vous pour les personnes que vous accompagnez? Je suis extrêmement inquiète de ce qui va arriver aux familles de ces villages, en particulier dans les semaines à venir. Moi, je peux quitter la Cisjordanie et Israël grâce à mon passeport irlandais, tandis qu'elles, elles n'ont nulle part où aller pour se mettre à l'abri. En tout état de cause, elles ne veulent pas être obligées de partir de chez elles. Elles veulent simplement pouvoir vivre leur vie sans craindre en permanence d'être harcelées et pouvoir s'occuper de leurs enfants, de leurs parents plus âgés et bien sûr de leurs animaux, comme elles le font depuis des générations. Les tragédies qui se déroulent en Israël et à Gaza ont droit à une couverture médiatique, mais ce qui se passe en Cisjordanie est largement ignoré par les médias internationaux. Je demande au Conseil œcuménique des Églises d'user de son influence à travers le monde pour faire pression sur les gouvernements, en particulier dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, afin qu'ils collaborent avec les populations palestiniennes et israéliennes pour instaurer une paix juste. Tant qu'il n'y aura pas de justice pour tous et toutes entre le Jourdain et la mer, le cycle de la violence se poursuivra. Passons aux informations locales. Maison du protestantisme de Nîmes. L'accueil a lieu du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h. L'après-midi, du lundi au vendredi, de 14h à 17h. Et le samedi, de 10h à 12h. Les repas du jeudi auront lieu les 9, 16 et 30 novembre à 12h15. Il n'y aura pas de repas le 23 pour cause de kermesse. Atelier Théophilo, la prochaine réunion aura lieu le jeudi 9 novembre à 18h30 sur le cycle Socrate et Platon. Le groupe de recherche spirituelle se réunira le vendredi 10 novembre à 15h sur le thème La rémission des péchés. La bibliothèque est ouverte aux lecteurs, aux chercheurs le vendredi de 14h à 16h. Exposition de Nina Aeagon, du 8 au 14 novembre, sur le thème « Influence », vernissage le 11 novembre à 18h30. Association protestante d'assistance, la prochaine friperie solidaire de l'Association protestante d'assistance se tiendra au 19 rue Bigot, mardi 14 novembre, de 8h30 à 16h30. Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 04 66 58 25 27. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que cette émission Poussière et Granit est diffusée le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le samedi à 10h10. Au revoir, bonne journée.